Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. L'OCDE prévoit une croissance de l'économie tchèque à 1,6% en 2012. Selon l'AIEA, ce serait la Hongrie qui serait responsable des rejets atmosphériques d'iode radioactif en République tchèque et dans le reste de l'Europe. Et puis 5 toiles du peintre Émile Fila volées dans un château de Bohême. La croissance de l'économie tchèque devrait ralentir en 2012 et passer d'un taux de 2,1% pour cette année à 1,6% l'année prochaine. C'est du moins ce que prévoit l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, dont le rapport a été présenté ce vendredi à Prague par son secrétaire général. En mai dernier, l'OCDE avait prévu un taux de croissance du PIB de 3,5% pour 2012. Cette révision en forte baisse des prévisions s'explique bien entendu par le ralentissement de la croissance économique mondiale et par l'évolution de la situation dans la zone euro. Malgré tout, les prévisions de l'OCDE pour l'année prochaine restent plus optimistes que celles de la Banque centrale de République tchèque, du ministère des Finances et de la Commission européenne. Le mystère semble être levé sur la présence en République tchèque et dans d'autres pays européens de faibles quantités d'iode radioactif I-131. L'Agence internationale de l'énergie atomique a en effet annoncé qu'elle provenait sans doute de l'Institut de recherche sur les isotopes de Budapest. L'agence onusienne précise dans son communiqué qu'elle a été informée par l'autorité de l'énergie nucléaire de Hongrie que l'iode 131 détecté dans l'atmosphère était probablement dû à une fuite provenant de cet institut des isotopes qui fabrique des radioisotopes destinés aux soins médicaux, à la recherche et à des applications industrielles. Mais l'institut hongrois a nié être à l'origine de ces émissions qui se sont produites entre le 8 septembre et le 16 novembre. Les funérailles de la légende de l'underground tchèque Ivan Martin Jirous seront organisées ce samedi à Kostelní Vidři, près de Telč. Sa fille Marta Vesela Jirousova a indiqué que la cérémonie se déroulera dans l'église du village. Surnommé Magor, Dingue ou Maboul en français, Ivan Martin Jirous est décédé jeudi dernier à l'âge de 67 ans. Ce farouche opposant au régime communiste, diplômé en histoire de l'art, a notamment été le directeur artistique du groupe de rock Plastic People of the Universe. Le procès de ce groupe en 1976 pour trouble à l'ordre public a inspiré la charte 77, le mouvement de dissidence qui a mis sur le devant de la scène le dramaturge et futur président Václav Havel. Un mot de sport avec du patinage de vitesse et Martina Sablikova qui a entamé par une victoire la nouvelle saison de Coupe du Monde. La Tchèque a remporté le 3000 mètres, épreuve initiale ce vendredi à Tcheliabinsk en Russie, en devançant la néerlandaise Irene Wüst et l'allemande Claudia Pechstein, double championne olympique en titre sur 3000 et 5000 mètres, multiple championne du monde et d'Europe, record woman du monde, meilleure sportive tchèque de l'année en 2009 et 2010, Martina Sablikova est la meilleure spécialiste mondiale sur longue distance depuis plusieurs saisons. Un mot pour terminer sur la météo, avec un ciel couvert et des températures maximales comprises entre 2 et 5 degrés, c'est les prévisions pour ce samedi. Je vous souhaite un excellent début de week-end et dans une poignée de secondes, c'est la suite du programme en français de Radio Prague. Pour plus d'infos, c'est sur notre site internet www.radio.cz.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. Au programme du jour, le 17 novembre était un jour de fête nationale, vous le savez si vous nous avez écoutés hier. C'est aussi le jour d'entrée en vigueur de la loi sur la résistance anticommuniste. Vous en saurez plus dans quelques instants. Voïna, c'est le nom d'un groupe d'artistes russes qui donne des sueurs froides aux autorités de leur pays. Découvrez-les avec nous. Bonne écoute de ce programme. Vingt-deux ans après la chute du régime communiste, la loi relative à la résistance contre le communisme est entrée en vigueur symboliquement jeudi 17 novembre, célébrée en République tchèque comme journée de lutte pour la liberté et la démocratie. L'application de ce texte doit permettre de reconnaître le statut de tous ceux qui ont lutté de quelque manière que ce soit contre le totalitarisme communiste. Guillaume Narguet.
Adoptée cette année, après de longs débats au Parlement, la loi sur la résistance anticommuniste doit permettre aux anciens opposants de recevoir 100 000 couronnes et de se voir attribuer le statut d'ancien combattant, même sans jamais avoir pris les armes. Ce statut doit leur permettre de bénéficier de certains avantages, notamment dans le domaine de la santé. Par ailleurs, dans le cas où des anciens résistants reçoivent actuellement une pension de retraite inférieure au montant moyen national, le montant de leur pension sera mis à niveau de la moyenne. La loi est donc entrée en vigueur jeudi, la première manifestation à Prague lors de la révolution qui a abouti à la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie en 1989, s'étant tenue précisément le 17 novembre. Évoquée depuis longtemps, cette loi n'a été adoptée que 22 ans, donc après la fin du régime communiste, comme le regrette le ministre de la Défense, Aleksandr Vondra.
Cela fait partie du naturel national tchèque. Nous ne portons pas l'estime que nous devrions à nos propres héros, nous cherchons toujours à relativiser leurs actes et à les mettre en doute. Et je ne parle pas du sentiment immense de mauvaise conscience ou de l'opposition consciente des partis de gauche dans notre pays. Ce sont les principales raisons qui expliquent qu'il a fallu autant de temps et qu'il ait été si difficile de faire adopter cette loi. Je rappelle quand même que le projet de loi initial avait été approuvé par le Sénat en 2008.
S'il a fallu tant de temps avant d'aboutir à l'adoption du texte, c'est partiellement en raison de l'opposition des représentants du Parti communiste au Parlement. Mais c'est aussi parce que la reconnaissance des activités des opposants au régime communiste dans la seconde moitié du XXe siècle pose problème pour un certain nombre de Tchèques qui se demandent s'il est bien nécessaire de considérer comme des anciens combattants ces opposants plus ou moins féroces selon les cas au régime. Par ailleurs, comme s'en insurge la députée communiste Marta Semelova, la loi va bénéficier à des personnes comme les frères Machine ou Milan Pomer qui ont lutté avec les armes contre le nouveau pouvoir en place dans les années 1950.
Z teroristů chcete udělat odbojáře či veterány. A ještě si troufáte v předloženém návrhu.
Vous voulez faire de terroristes des résistants ou des anciens combattants et vous osez encore mentionner dans le projet de loi présenté que, je cite, les actes et les positions de ces personnes ont été et sont un exemple et un engagement pour les générations futures. Consentir et mettre en valeur de telle manière la violence et la terreur est selon moi à la limite de la responsabilité pénale.
Dans le texte de loi, il est toutefois mentionné que la période comprise entre 1948 et 1989 est considérée comme une période de guerre, mention censée garantir aux opposants et résistants le statut d'anciens combattants. Mais relativement nombreuses sont les Tchèques qui doutent de l'honnêteté de tous ceux qui se disent anciens combattants pour la liberté et dont certains vont vouloir abuser de la loi. Une crainte comprise et partiellement partagée également par le vice-président de la Confédération des prisonniers politiques, František Šedivý.
C'est bien sûr ce que nous voulons éviter. D'abord par respect pour la mémoire de nos amis disparus et ensuite pour ce que nous avons vécu. Cette année, cela fait précisément 50 ans que ma mère est morte, chez elle, sans un sou et sans qu'il soit permis d'être hospitalisée. Cette loi, ce n'est donc pas seulement notre lutte, celle des anciens prisonniers politiques, c'est aussi celle de toutes les familles qui ont souffert.
Pour obtenir le statut d'ancien combattant contre le communisme, une demande devra être formulée auprès du ministère de la Défense, qui fournit les informations nécessaires sur son site internet et sur une ligne téléphonique spéciale. En cas de refus, les personnes s'estimant lésées pourront encore faire appel auprès de la commission dite d'éthique, dont les deux premiers des 9 membres seront nommés lundi prochain par l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires.
Art et liberté d'expression, même au XXIe siècle, voilà deux idées qui ne font toujours pas bon ménage, surtout quand l'art en question vient titiller les hommes politiques, souvent fort susceptibles. Pour la réouverture de la galerie Artwall à Prague, celle-ci frappe fort, elle propose une exposition des œuvres d'un collectif d'artistes russes appelé Voïna, qui ne fait pas de cadeaux au pouvoir russe. La galerie Artwall a une histoire mouvementée. Après 3 ans de silence, elle peut à nouveau reprendre ses activités et exposer des œuvres géantes dans les grandes niches du mur de la colline de Letna, sous l'ancien monument dédié à Staline à l'époque communiste. Zuzana Stefkova de la galerie Artwall.
La galerie Artwall a commencé ses activités en 2005 lorsqu'un artiste étranger, David Wolicker, s'est dit que ses niches, ses cadres devraient servir à quelque chose. L'œuvre qu'il a réalisée a été soutenue par le Centre pour l'art contemporain de Prague. En 2008, le collectif d'artistes Gumaguar a exposé son projet qui, de manière parodique, montrait du doigt la candidature de Prague pour acquérir les Jeux olympiques. La mairie qui est propriétaire de cet espace a réagi en résiliant notre bail, ce qui de facto a mené à la liquidation de la galerie.
À l'époque, le maire de Prague s'appelle Pavel Bém et de toute évidence, il n'apprécie guère qu'on tourne en dérision un projet à hauteur de ses ambitions. Novembre 2011, autre temps, autre maire, Bohuslav Svoboda, pourtant issu du même parti de droite que son prédécesseur, a accepté de patronner la nouvelle exposition d'Artwall qui remet la galerie sur les rails. Avec Vojna Wanted, Artwall commence sur les chapeaux de roue, puisque à l'heure actuelle, plusieurs membres du collectif russe, connu pour ses actions coup de poing, sont sous le coup de poursuites dans leur pays. Yana Sarna est photographe et membre du groupe Vojna.
Vojna a été fondée à Moscou en 2007 par Oleg Vorotnikov, Natalia Sokol et Alex Plutzer. Vojna est un mouvement radical et protestataire qui crée des œuvres d'art de rue. Nous organisons des actions qui se moquent des autorités russes, qui sont corrompues, brutales et cruelles et qui violent les droits de l'homme.
Parmi les coups de gueule artistiques de Vojna, une partouze publique au musée de biologie de Moscou, mise en scène le jour précédant l'élection du président russe Dmitri Medvedev. En 2010, le groupe peint un phallus géant de 65 mètres de haut sur un pont-levis de la capitale russe menant au siège des actuels services de sécurité fédéraux, soit l'ancien KGB. Zuzana Štefková nous parle de l'œuvre de Vojna présentée à Prague.
Vous pouvez voir le long de la Vltava cette affiche qui montre une action de Vojna en 2010 dans un supermarché. On y voit des personnes pendues, des citoyens gênants. C'est une sorte de cadeau ironique au maire de Moscou puisqu'on y voit deux gays et trois travailleurs émigrés, des minorités qui subissent fréquemment des attaques en Russie. Or, le maire de Moscou lui-même propage ses idées xénophobes.
Deux maires, deux villes, deux façons de faire, tandis qu'à Moscou, le maire envoie les forces de l'ordre arrêter les membres de Vojna quand ceux-ci manifestent contre la corruption des pouvoirs publics. À Prague, le maire a inauguré en grande pompe l'exposition. Yana Sarna.
The Prague mayor, Bohuslav Svoboda, decided to support.
Le maire de Prague a décidé de nous soutenir. Je pense qu'il nous comprend. La République tchèque a aussi beaucoup souffert du KGB et des personnes qui violent les droits de l'homme. Donc c'est une façon pour lui de nous soutenir. Il a permis l'affichage d'une centaine d'affiches dans le métro et dans les rues qui montrent Oleg Vorotnikov derrière les barreaux. Nous lui en sommes très reconnaissants.
City light vitrines and in other public spaces. Very grateful to him.
En attendant, plusieurs membres de Vojna se cachent en Russie alors qu'ils sont activement recherchés par la police. L'exposition Vojna Wanted de la galerie Artwall est à voir jusqu'à la fin de l'année au pied de la colline de l'Etna. On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Qui n'a jamais entendu parler de l'antivirus Avast? Avec 150 millions d'utilisateurs, il est aujourd'hui l'antivirus le plus utilisé au monde. Pourtant, rares sont ceux qui savent que son siège est situé à Prague. Nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion de cette émission préparée pour vous par Anne-Claire Veluire, qui date du 20 mai 2011.
Économie, commerce.
Bienvenue à Avast. Un logiciel potentiellement indésirable a été détecté. Le scan est terminé.
Et vous, qu'avez-vous sur votre ordinateur? Ce sont les premiers mots que prononce le directeur du marketing Miloslav Korenko lorsqu'on se rend dans les bureaux de la société informatique Avast, située dans le sud de Prague. Au dernier étage de la tour tout en verre dans laquelle est installée la société, le panorama est magnifique avec une vue exceptionnelle qui s'étend du château de Prague au quartier de Žižkov. Mais ce n'est pas seulement sur la capitale de la Bohème, mais bien sur le monde entier que règne cette société tchèque fondée en 1988. Miroslav Korenko.
Avast vznikl vlastně v roce 1988.
Avast est né en 1988 avec le concours d'Edouard Kuchera et de Pavel Baudish qui travaillaient à l'époque à l'Institut de recherche d'outils mathématiques, une institution qui permettait l'accès à des ordinateurs, des petits ordinateurs personnels. À cette époque, Pavel Baudish s'est retrouvé avec un virus et il a réussi à créer un outil qui s'est débarrassé de ce virus. C'est à ce moment qu'est né Avast. C'était la première fois qu'on arrivait à se débarrasser d'un virus. La première forme de la société était celle d'une coopérative, puisqu'il était impossible de fonder une société privée sous le communisme. Puis elle a été transformée en une vraie société, c'était en 1991. Chaque mois d'avril, nous fêtons l'anniversaire de la création de la société. D'ailleurs, cette année, nous avons fêté ses 20 ans. La société telle qu'elle est aujourd'hui a donc 20 ans, mais son histoire remonte à un peu plus loin.
Výročí a teď vlastně to bylo 20. výročí, takže firma má 20 let jako taková, ale ty začátky jdou trošičku dál.
20 ans de succès et de croissance exponentielle, pourrait-on croire. Pourtant, Avast a bien failli disparaître au milieu des années 90. On écoute Miroslav Korenko.
V 90. letech se soustředil na to, co všichni v té době vlastně dělali, to znamená, že na bezpečnostní zařízení pro nebo zabezpečení pro firmy.
Dans les années 90, la société s'est concentrée sur ce que toutes les sociétés d'antivirus faisaient, des logiciels de sécurité pour les entreprises. Les entreprises étaient les seuls endroits où se trouvaient des ordinateurs et le peu d'ordinateurs à usage domestique n'étaient de toute façon pas connectés à Internet, puisqu'Internet n'existait pas. En 96, une crise a éclaté en Russie, une crise économique, et elle s'est propagée dans toute la région. À la même époque, des sociétés étrangères sont venues s'installer en République tchèque. Elles ont amené leurs travailleurs et des spécialistes qui utilisaient des marques de grandes sociétés, comme Symantec par exemple, ou McAfee, au lieu de petites marques régionales. Par conséquent, le marché d'Avast s'est extrêmement réduit jusqu'à pratiquement ne plus exister, si bien que la société s'est demandé si elle devait se mettre en banqueroute ou pas.
Firma stala před rozhodnutím, jestli zbankrotovat nebo nezbankrotovat, nebo co vlastně dělat.
Le coup de maître d'Avast est la raison pour laquelle tout le monde connaît cet antivirus et celui d'avoir proposé une version gratuite du logiciel. La société saute le pas en 2002. Au bout d'un mois, 94 personnes avaient téléchargé la version gratuite de l'antivirus. Deux ans et demi plus tard, ils étaient 1 million. Avast, pionnier d'un modèle économique qui s'appelle dans le monde informatique le freemium, se lançait dans un pari a priori risqué. Pourtant, ce n'est pas l'avis de Miloš Korenko.
To není zas takový challenge, protože ty modely, kdy nabídnete něco zdarma...
Ce n'est pas un si grand challenge que ça. Les modèles où quelque chose de gratuit est offert, mais on reçoit de l'argent, existent évidemment. Google n'a que 5 ans, mais avant il y avait Yahoo ou AltaVista, et ils fonctionnent tous sur le même principe. Le client vient sur le moteur de recherche, il cherche quelque chose et de la publicité est projetée. Le moteur de recherche trouve ce qui était cherché et se fait payer par les publicitaires. C'est un système fantastique qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Google est une société géniale.
Pourtant, reconnaît Miloš Korenko, la question d'un logiciel antivirus est différente. La version gratuite doit contenir plus que seulement le repérage du virus. Si elle ne permet pas d'éradiquer le virus, personne ne téléchargera le programme, même s'il est gratuit. La version payante doit comporter d'autres éléments, mais pas les fonctions fondamentales. Mais c'est surtout une autre démarche qui fait la particularité d'Avast. On écoute Miroslav Korenko.
Ten druhý aspekt toho klíče úspěchu je v tom, že...
Le deuxième aspect du succès d'Avast réside dans le fait que pour la plupart des sociétés qui proposent une version gratuite, cette version est un outil marketing, une base marketing. Notre approche est différente, et je le pense sincèrement, parce que nous ne considérons pas du tout les utilisateurs comme une charge, mais comme une aubaine. Nous ne les aimons pas seulement parce que peut-être à l'avenir, ils sont susceptibles de nous acheter une version payante, mais parce qu'ils nous traduisent nos logiciels. Aujourd'hui, Avast est proposé dans 36 langues, aucun autre antivirus n'est autant traduit, et ce sont les utilisateurs qui nous l'ont traduit. Deuxième chose, nous ne payons aucune publicité, parce que nous pensons qu'en offrant un bon logiciel gratuit, les gens sauront comment nous trouver.
Neplatíme si naprosto žádnou reklamu a věříme tomu, že když budeme nabízet dobrý free software, tak ti lidé si nás najdou.
On pourrait donc penser qu'Avast a un peu gardé l'esprit de ses origines, la coopérative, puisqu'elle s'appuie sur les efforts de tous pour progresser. C'est encore plus le cas avec les aspects techniques.
Další skutečnost je ta, že my v podstatě podporujeme 150 milionů uživatelů.
L'autre fait intéressant est que nous assurons l'assistance technique de 150 millions d'utilisateurs avec 27 personnes. Comment sommes-nous capables de faire ça? Eh bien parce que la plupart de l'assistance se fait sur les forums d'utilisateurs qui sont organisés par nos utilisateurs. Et ce qui est le plus important pour eux, c'est la détection des virus. Cela se passe selon la façon suivante. Quand un fichier susceptible d'être un virus est détecté sur le compte d'un utilisateur gratuit, il est envoyé automatiquement dans notre laboratoire. Chaque jour, nous recevons ainsi 15 000 fichiers de ce type. Et dans 80% des cas, ce sont effectivement des virus. L'antidote est alors envoyé aux ordinateurs de tous les utilisateurs.
Signatura a ta se vlastně nahraje všem ostatním uživatelům zpětně.
Plus le nombre d'utilisateurs est grand, plus les possibilités de détecter de nouveaux virus est important. La croissance d'Avast ne semble ainsi pas prête de s'arrêter. Cependant, une entreprise qui augmente ses bénéfices de 80% d'une année sur l'autre attire forcément les convoitises. Et pourtant, même si un fonds d'investissement américain a acheté en 2010 une part de la société, les fondateurs Edward Kuchera et Pavel Baudish restent majoritaires. Il y a quelques années encore, Avast ne comptait même pas 10 employés. Aujourd'hui, ils sont autour de 150. Le succès d'Avast ne connaît pas de frontières et les utilisateurs se trouvent aux quatre coins du monde, jusqu'à 6 personnes sur les îles Pitcairn, un territoire d'outre-mer britannique qui constitue l'entité politique la moins peuplée du monde. Jusqu'à peu, c'est en France qu'Avast comptait le plus grand nombre d'utilisateurs, pour des raisons que Miloslav Korenko ne s'explique pas. Désormais, d'autres marchés se dégagent, notamment celui du Brésil, qui vient de dépasser le marché français, puisque les familles brésiliennes, avec le développement économique du pays, se dotent de plus en plus d'équipements informatiques. D'autres concurrents qui ont adopté le modèle économique d'Avast, notamment Microsoft ou MS Security Essential, sont également sur les starting blocks. Mais le marché s'annonce de toute façon très prometteur, avec par exemple le développement d'Internet sur la téléphonie mobile. Et puis, fidèle à sa philosophie, Avast fait actuellement appel à ses utilisateurs pour trouver les nouvelles voies de l'antivirus. Le concours est ouvert à tout le monde et vous pourrez gagner le plaisir d'entendre votre voix annoncer les bonnes ou mauvaises nouvelles sur la présence ou non d'un virus dans votre ordinateur. Avast propose aussi d'autres concours où il y a vraiment quelque chose à gagner. Il s'agit d'un séjour, figurez-vous, dans la capitale tchèque.
Voilà, c'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sous forme de podcast, en streaming ou également sous forme d'article au www.radio.cz/fr. Ce week-end, vous pourrez entendre nos émissions de la fin de la semaine et puis vous pourrez retrouver le programme habituel dès lundi. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.